Je vous propose que, alors que nous sommes à la fin du mois de Marie, le mois de mai, que nous nous confions à la Vierge Marie de façon particulière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, il est heureux que nous puissions célébrer cette messe de la Trinité en plein soleil, puisque le mystère de Dieu s'exprime symboliquement par ce passage des ténèbres à la lumière, de la nuit au jour. Et vous avez remarqué que dans toute la liturgie de l'Église, que ce soit Noël, que ce soit la fête de Pâques, la liturgie de la veillée pascale et toutes les autres liturgies tournent autour de ce thème de la lumière qui finalement est une des analogies les plus parlantes pour nous exprimer ce que Dieu fait avec ses créatures, avec l'humanité. Nous étions dans les ténèbres. Et nous sommes dans les ténèbres si nous ne nous laissons pas éclairer par la révélation de Dieu. Bien sûr, on peut croire philosophiquement en l'existence de Dieu, même si depuis plus d'un siècle maintenant, certains ont développé des philosophies qui cherchent à se construire sans Dieu, mais bon, elles ont leurs faiblesses, évidemment. Mais tout de même, on peut être déiste. Par contre, une fois qu'on est déiste, on n'a pas... Dieu peut être présenté comme le grand horloger, tel qu'au siècle des Lumières, ou bien dans la franc-maçonnerie, Dieu, le grand horloger, qui est au-derrière de tout, mais finalement, ça reste une réalité abstraite, en tout cas une réalité, une présence qui n'a aucun impact fort sur l'histoire, sinon celle d'être à l'origine de la création, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et que se passe-t-il dans la Bible? La première lecture nous rappelle, première lecture dans l'Ancien Testament, du Deutéronome, nous sommes dans la Torah, le Pentateuque, donc les livres les plus structurants pour la foi juive, encore aujourd'hui, c'est les livres de la Torah, 5 livres essentiels. Et bien dans ces livres, ce qui nous est montré, c'est que Dieu vient à la rencontre de l'humanité pour se révéler à lui et pour le guider. Dieu veut dialoguer avec l'humanité. Ça, c'est une première chose. C'est que dans la foi chrétienne, nous avons un Dieu non seulement qui dit qu'il existe, qu'il est, et qu'il faut l'adorer, comme certaines religions proposent, mais ce Dieu veut rentrer en dialogue. Et il rentre en dialogue avec des personnes dans l'histoire de la Première Alliance, dans l'Ancien Testament. Il rentre en dialogue avec des personnes et il va se révéler, nous nous souvenons, les différentes révélations, en particulier celle de Moïse, où Dieu, sous la forme d'un feu, se présente à lui, à Moïse, pour lui donner une mission. Donc, Dieu se vient et entre en dialogue et veut faire cheminer l'humanité avec lui, proposer un cheminement à l'humanité. C'est ainsi qu'il va lui proposer de le délivrer. Dans la première alliance, avec la délivrance de l'esclavage, en Égypte, et puis ça sera ceci, comme tout d'ailleurs tous les événements de la première alliance trouvent un accomplissement, une révélation complète dans la nouvelle alliance, celle de Jésus-Christ. Donc cette libération de l'esclavage qui est l'origine de la fête de Pâques va être manifestée totalement par la libération de l'esclavage du péché obtenu par Jésus. Donc il y aura une préfiguration dans la première alliance, une réalité déjà. Et Dieu va donc se révéler, entrer en dialogue, agir, et il va se révéler comme le Dieu unique. À l'époque où cela se fait, il faut voir qu'aucune nation dans l'univers, dans le monde, aucune nation n'était monothéiste. Toutes les nations étaient polythéistes parce que ça semblait être le plus cohérent, étant donné les forces de la nature, on reconnaissait des présences de divinités selon les cultures différentes. Mais celle-ci, donc Dieu en se révélant, se présente comme le Dieu unique, et il va se présenter comme un dieu qui dialogue, donc, mais qui est dans un monothéisme radical. Hein. Alors, que nous dit, vous avez entendu hein, dans la première lecture du Deutéronome au chapitre 4, « Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur, médite cela dans ton cœur. Le Seigneur, qui est Dieu, là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas d'autre. » Hein, donc c'est une affirmation, c'est au cœur de notre foi. Et nous sommes, nous, des monothéistes radicaux. Hein, il y a une radicalité dans la vie chrétienne. Nous sommes des monothéistes radicaux. Hein, quand l'islam, voire parfois certains juifs, nous reprochent au christianisme d'être polythéistes, étant donné la Trinité, eh bien, il nous faut réaffirmer que nous sommes des monothéistes radicaux. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et que même Jésus nous le rappelle quand il dit, par exemple, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ça montre cette radicalité du monothéisme, puisque non seulement c'est les faux dieux tels que les religions naturelles pouvaient en déceler dans la nature, dans les forces de la nature, mais il dénonce aussi, et c'est présent très fortement dans l'Ancien Testament, il dénonce toutes les idoles, y compris, vous avez vu, là, dans cette parole de Jésus, assez très fort, c'est-à-dire qu'on doit préférer Dieu, y compris à notre propre famille. La famille peut être une idole. D'ailleurs, c'est très intéressant de constater que dans une société qui se déchristianise, eh bien, en fait, les gens, dans leur descendance, mettent tout dans leur descendance, comme s'il n'y avait que cela. Évidemment, hein, c'est un cadeau de Dieu de pouvoir fonder une famille, avoir des enfants, avoir des petits-enfants, les voir grandir. C'est un cadeau de Dieu que de pouvoir vivre tout cela. Hein, s'il s'agit pas de... Mais ce n'est pas au-dessus de Dieu. Hein, et ça ne peut pas être en concurrence avec Dieu. Hein, Dieu doit toujours être le premier honoré, le premier adoré et le premier aimé. Hein, donc ça, la première alliance nous le dit très fortement et Jésus le confirme. Nous sommes donc dans cette lignée-là de monothéistes radicaux. Dieu doit être le premier servi, et même si ce ne peut pas être compris par tous. Et puis, enfin, Jésus, dans la Nouvelle Alliance, donc lui nous fait rentrer, nous fait découvrir ce Dieu un, ce Dieu unique. Hein, qu'on ne peut pas adorer d'autres dieux, il nous faut toujours lutter contre toutes les idoles, toutes ces formes, hein, l'argent, le pouvoir, tout ça, c'est des idoles, hein, pour garder le Dieu unique. Eh bien, Jésus nous fait entrer, nous fait découvrir davantage ce Dieu unique en nous le révélant comme un Dieu sauveur, comme un Dieu qui nous aime et comme un Dieu trinitaire. C'est Jésus qui nous fait rentrer, il nous fait entrer dans ce Dieu unique que nous honorons, il nous fait entrer à l'intérieur de Dieu. Hein, nous découvrons Dieu de l'intérieur grâce à la révélation de Jésus-Christ et à l'action de l'Esprit-Saint. Hein, nous sommes dans l'intimité divine. Et c'est ce qui est très fort dans la foi chrétienne et ce qui explique que dans la foi chrétienne, nous l'avons entendu dans la seconde lecture, nous pouvons être des fils, nous pouvons être dans une communion avec Dieu, hein, parce que Dieu ne se contente pas d'être aimé et adoré, d'être respecté comme un Dieu unique, comme le Dieu unique, mais il se présente comme un Dieu d'amour. Et ce Dieu trinitaire qui demande, qui nous fait découvrir son intimité parce qu'il veut nous faire rentrer dans cette intimité. Et il veut ainsi nous combler de sa présence, dès ici-bas sur terre et pour l'éternité. Donc nous avons la chance, par Jésus-Christ, par l'action de l'Esprit-Saint, de découvrir Dieu dans son intimité. Il nous fait rentrer dans sa maison, dans lui-même, et au terme de notre vie, au ciel, eh bien... nous, être créés, créatures, nous allons pouvoir, nous aurons un paradis. Ce paradis n'est pas un paradis, le monde en mieux, on va dire. Ce paradis, c'est entrer dans la divinité de Dieu, dans la joie de la divinité, dans l'amour divin, entrer dans l'intimité trinitaire. Et ça peut se commencer dès la terre, ce qui est aussi très, très puissant, par l'action de l'Esprit-Saint. Voilà, donc, il nous fait découvrir cela et nous demande de diffuser ce message au monde entier. C'est l'évangile que nous venons d'entendre. à la fois, donc la deuxième lecture nous montre qu'il nous fait rentrer dans cette intimité, et puis dans l'évangile, Jésus nous invite à parcourir le monde, à annoncer, à dire les commandements et à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez que le terme baptiser en grec veut dire plonger. Hein. Autrement dit, on est plongé dans le nom. Le nom, c'est le nom imprononçable de Dieu, du Dieu unique, hein, tel que le tétragramme dans la première alliance, le nom, mais qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est autant dire que par notre baptême, nous sommes plongés dans la Trinité. Et donc, c'est ce que nous sommes invités à faire. Donc, il y a deux choses, hein, deux réalités que nous sommes invités à vivre, hein, qui est conséquence de cette révélation du mystère trinitaire. C'est entrer dans l'intimité de Dieu, dès maintenant, donc vivre, avoir une vraie vie intérieure, entrer dans l'intérieur de soi. Dieu est présent en nous, mais jamais dominant. Hein, donc, avoir une vie intérieure, une vie de prière, pour être divinisé par l'action de Dieu. Entrer en communion, voire même en union avec la Trinité Sainte. Et quand on fait ça, déjà la mort ne fait plus peur, parce que c'est une simple formalité de passage, hein, pas grand-chose. Et quand on fait ça, la vie est toute changée, bouleversée. On ne regarde plus le monde de la même manière, on le regarde avec le regard de Dieu, et tout est différent. Hein, donc, cette première invitation, entrer dans l'intimité de Dieu, hein, comme le dit un peu la deuxième lecture, mais cette invitation, comme toute la tradition spirituelle chrétienne le dit, entrer dans l'intimité de Dieu par une vie intérieure, sortir de la superficialité, ne pas honorer simplement du bout des lèvres, ne pas être ritualiste. Pourtant, Dieu sait que j'aime la liturgie, j'aime le rite, parce qu'il parle, mais il ne faut surtout pas rester dans la superficialité des choses, mais entrer dans cette adoration, cet amour, cette intimité divine pour qu'elle nous transforme de l'intérieur et donc avoir une vraie vie de prière. Et j'encourage particulièrement l'adoration et l'oraison pour cela. Et puis, deuxième démarche complémentaire, sortir de nous-mêmes, hein, donc c'est cette démarche inverse, mais qui vont ensemble, sortir de nous-mêmes pour annoncer la Trinité qui s'est révélée, pour l'annoncer au monde entier et baptiser les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ça, même au prix de notre vie. Et puis, ça se fait aussi par une vie de charité active dans les actions quotidiennes, c'est-à-dire où on laisse l'amour de Dieu, l'Esprit-Saint, agir en nous, agir à travers nous, par nos actes. Hein, donc, la charité, tout ce qui est du domaine de la charité, du service, du pardon, de donner de nous-mêmes aux autres, et puis annoncer le Père, le Fils et le Saint-Esprit au monde entier. Alors, je voudrais terminer par une citation de la liturgie byzantine, qui est liturgie, certains diront liturgie orthodoxe, mais en fait, ce n'est pas une liturgie orthodoxe, parce qu'il y a des catholiques qui prient la liturgie byzantine, la liturgie orientale, la deuxième liturgie après la liturgie romaine, qui est pratiquée en Grèce, et puis en Russie en particulier, mais aussi dans le monde entier. Donc la liturgie byzantine, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il y a une très belle prière qui est faite aussitôt après la communion, c'est pour ça que je vous la cite, parce que ça montre que la communion nous fait rentrer dans ce mystère trinitaire. Voilà ce qu'il chante, parce qu'en fait, il le chante à chaque fois. Nous avons vu la lumière véritable. Nous avons reçu l'Esprit céleste, donc par la communion. Nous avons trouvé la vraie foi en adorant la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Amen.